Protestation devant les libertaires du présent et du futur sur les capitulations de 1937. Par un incontrôlé de la colonne de fer. Traduit de l'espagnol par deux aficionados sans qualité. Alice Becker O et Guy Debord, 1979.
Je suis l'un de ceux qui ont été délivrés de San Miguel de los Reyes. Sinistre bagne qu'éleva la monarchie pour enterrer vivants les hommes qui, parce qu'ils n'étaient pas des lâches, ne se sont jamais soumis aux lois infâmes que dictèrent les puissants contre les opprimés. Ils m'ont emmené là-bas, comme tant d'autres, pour avoir lavé une offense, pour m'être rebellé contre les humiliations dont un village entier était victime, autrement dit, pour avoir tué un cacique. J'étais jeune, et je suis jeune maintenant, puisque j'entrais au bagne à 23 ans, et que j'en suis sorti parce que les camarades anarchistes en ouvrirent les portes, quand j'en avais 34. 11 années soumises au supplice de ne pas être homme, d'être une chose, d'être un numéro. Avec moi sortirent beaucoup d'hommes qui en avaient autant enduré, qui étaient aussi marqués par les mauvais traitements subis depuis leur naissance. Certains, dès qu'ils ont foulé le pavé de la rue, s'en sont allés par le monde. Et les autres, nous nous réunîmes à nos libérateurs, qui nous traitèrent en amis et nous aimèrent en frères. Avec eux, peu à peu, nous avons formé la colonne de fer. Avec eux, à grands pas, nous avons donné l'assaut aux casernes et fait rendre les armes à de redoutables gardes civils. Avec eux, par d'âpres attaques, nous avons refoulé les fascistes jusque sur les crêtes de la montagne, là où ils sont encore à présent. Accoutumés à prendre ce dont nous avons besoin, de pourchasser le fasciste, nous avons conquis sur lui les approvisionnements et les fusils. Et nous nous sommes nourris pour un temps de ce que nous offraient les paysans. Et nous nous sommes armés sans que personne ne nous fît le cadeau d'une arme, avec ce que nous avions ôté, par la force de nos bras, aux militaires insurgés. Le fusil que je tiens et caresse, celui qui m'accompagne depuis que j'ai quitté ce fatidique bagne, il est à moi, c'est mon bien propre. Si j'ai pris, comme un homme, celui que j'ai entre les mains, de la même façon son autre, proprement nôtre, presque tous ceux que mes camarades ont dans leurs mains. Personne, ou presque personne, n'a jamais eu d'égard pour nous. La stupéfaction des bourgeois, en nous voyant quitter le bagne, n'a pas cessé et s'est même étendue à tout le monde, jusqu'en ce moment. Parce que nous ne soumettons pas le rythme de notre vie, que nous avons voulu et voulons libre, aux stupides caprices de quelques-uns qui se sont considérés, bêtement et orgueilleusement, comme les propriétaires des hommes dès qu'ils se sont vus dans un ministère ou un comité. Et parce que dans les villages où nous sommes passés, après en avoir arraché la possession aux fascistes, nous avons changé le système de vie, annihilant les féroces caciques qui tourmentaient toute l'existence des paysans après les avoir volés, et remettant la richesse aux mains des seuls qui surent la créer, aux mains des travailleurs. Personne, je peux en donner l'assurance, personne n'aurait pu se comporter avec les dépossédés, avec les nécessiteux, avec ceux qui toute leur vie furent pillés et persécutés, mieux que nous, les incontrôlés, les bandits, les échappés du bagne. Personne, personne, je défie qu'on apporte la preuve, n'a jamais été plus affectueux et plus serviable envers les enfants, les femmes et les vieillards. Personne, absolument personne, ne peut blâmer cette colonne, qui seule, sans aide, et il faut même dire entravée, a été depuis le commencement à l'avant-garde. Personne ne peut l'accuser d'un manque de solidarité, ou de despotisme, de mollesse ou de lâcheté, quand il s'agissait de combattre, ou d'indifférence envers le paysan, ou de manque d'esprit révolutionnaire. Puisque hardiesse et vaillance au combat ont été notre norme, la noblesse à l'égard du vaincu notre loi, la cordialité avec nos frères notre devise, et que la bonté et le respect ont été le critère du déroulement de toute notre vie. Pourquoi cette légende noire que l'on a tissée autour de nous? Pourquoi cet acharnement insensé à nous discréditer, alors que notre discrédit, qui n'est pas possible, ne ferait que porter préjudice à la cause révolutionnaire et à la guerre même? Il y a, nous les hommes du bagne, qui avons souffert plus que personne sur la terre, nous le savons bien, il y a, dis-je, dans l'atmosphère, un extrême embourgeoisement. Le bourgeois d'âme et de corps, qui est tout ce qu'il y a de médiocre et de servile, tremble à l'idée de perdre sa tranquillité, son cigare et son café, ses taureaux, son théâtre et ses relations prostituées. Et quand il entendait dire quelque chose de la colonne, de cette colonne de fer, le soutien de la révolution dans ses terres du Levant, ou quand il apprenait que la colonne annonçait sa descente sur Valence, il tremblait comme une feuille en pensant que ceux de la colonne allaient l'arracher à sa vie de plaisirs misérables. Et le bourgeois? Il y a des bourgeois de différentes classes et dans beaucoup de positions. Tissait sans répit, avec les fils de la calomnie, la noire légende dont il nous a gratifiés. Parce que c'est aux bourgeois, et seulement aux bourgeois, qu'ont pu et peuvent encore nuire nos activités, nos révoltes, et ces désirs irrépressibles qui emportent follement nos cœurs, désirs d'être libres comme les aigles sur les plus hautes cimes ou comme les lions au plus profond des forêts. Même des frères, ceux qui ont souffert avec nous dans les champs et dans les ateliers, ceux qui ont été indignement exploités par la bourgeoisie, se firent l'écho des terribles craintes de celle-ci, et en arrivèrent à croire, parce que certains, trouvant leur intérêt à être des chefs, le leur dirent que nous, les hommes qui luttions dans la colonne de fer, nous étions des bandits et des gens sans âme, de sorte qu'une haine, qui en est maintes fois arrivée à la cruauté et au fanatisme meurtrier, sema de pierre notre chemin pour entraver notre avance contre le fascisme. Certaines nuits, de ces nuits obscures dans lesquelles, l'arme au bras et l'oreille aux aguets, je m'efforçais de pénétrer les profondeurs du pays alentour et aussi les mystères des choses, je ne trouvais pas d'autre remède, comme dans un cauchemar, que de me dresser hors de l'abri, et ceci non pour désankyloser mes membres, qui sont d'acier parce qu'ils sont passés par le creuset de la douleur, mais pour empoigner plus rageusement mon arme, ressentant des envies de tirer, non seulement contre l'ennemi qui était caché à moins de 100 mètres de moi, mais encore contre l'autre ennemi, contre celui que je ne voyais pas, contre celui qui se cachait à mes côtés, et il y est encore à présent, qui m'appelle camarade, tandis qu'il me manque bassement, puisqu'il n'y a pas de manquement plus lâche que celui qui se repaît de trahison. Et j'éprouvais des envies de pleurer et de rire, et de courir à travers les champs en criant, et de serrer des gorges avec mes doigts de fer, comme lorsque j'ai brisé entre mes mains celle de l'immonde cacique, et de faire sauter pour qu'il n'en reste que décombre, ce monde misérable où il est si difficile de trouver des mains aimantes qui essuient ta sueur et étanchent le sang de tes blessures quand, fatigué et blessé, tu reviens de la bataille. Combien de nuits, les hommes étant ensemble, et ne formant qu'une seule grappe ou poignée, quand j'exprimais à mes camarades, les anarchistes, mes peines et mes douleurs, j'ai trouvé là-bas, dans l'âpreté de la montagne, face à l'ennemi qui nous guettait, une voix amie et des bras affectueux qui m'ont à nouveau fait aimer la vie. Et alors, toute la souffrance, tout le passé, toutes les horreurs et tous les tourments qui ont marqué mon corps, je les jetais au vent comme s'ils eussent appartenu à d'autres époques, et je m'abandonnais avec joie à des rêves d'aventure, apercevant, dans la fièvre de l'imagination, un monde différent de celui où j'avais vécu, mais que je désirais. Un monde différent de celui où ont vécu les hommes, mais que nous sommes nombreux à avoir rêvé. Et le temps passait pour moi comme s'il volait, et les fatigues ne m'atteignaient pas, et mon enthousiasme redoublait, et me rendait téméraire, et me faisait sortir dès le point du jour en reconnaissance pour découvrir l'ennemi et tout pour changer la vie. Pour imprimer un autre rythme à cette vie qui est la nôtre, pour que les hommes, et moi parmi eux, nous puissions être frères, pour qu'une fois au moins la joie, jaillissant de nos poitrines, se sème sur la terre, pour que la révolution, cette révolution qui a été le pôle et la devise de la colonne de fer, puisse être dans un temps prochain un fait accompli. Mes rêves se dissipaient comme ces blancs nuages ténus qui au-dessus de nous passaient sur la montagne, et je retournais à mes désenchantements pour revenir une autre fois, de nuit, à mes joies. Et ainsi, entre peines et joies, entre l'angoisse et les pleurs, j'ai passé ma vie, heureuse au sein des périls, à la comparer à cette vie obscure et misérable de l'obscur et misérable bagne. Mais un jour, c'était un jour gris et triste. Sur les sommets de la montagne, comme un vent de neige qui mord la chair, arriva une nouvelle. Il faut se militariser. Et dès cette nouvelle, ce fut comme un poignard qui me déchira, et je souffris par avance les angoisses que nous ressentons maintenant. Durant des nuits, dans l'abri, je me répétais la nouvelle. Il faut se militariser. À côté de moi, veillant tandis que je me reposais, bien que je ne puisse dormir, il y avait le délégué de mon groupe, qui serait alors lieutenant, et à quelques pas de là, dormant à même le sol, en appuyant sa tête sur une pile de bombes, était couché le délégué de ma centurie, qui serait capitaine ou colonel. Moi, je continuerai à être moi, l'enfant de la campagne, rebelle jusqu'à la mort. Je n'ai pas voulu et je ne veux pas des croix, des galons ou des commandements. Je suis comme je suis, un paysan qui a appris à lire en prison, qui a vu de près la douleur et la mort, qui était anarchiste sans le savoir, et qui maintenant, le sachant, est plus anarchiste qu'hier, quand il a tué pour être libre. Ce jour-là où tomba des crêtes de la montagne, comme un vent glacé qui me déchira l'âme, la funeste nouvelle sera inoubliable, comme tant d'autres dans ma vie de douleur. Ce jour-là, il faut se militariser. La vie enseigne aux hommes plus que toutes les théories, plus que tous les livres. Ceux qui veulent apporter dans la pratique ce qu'ils ont appris des autres en s'abreuvant à ce qui est écrit dans les livres se tromperont. Ceux qui apportent dans les livres ce qu'ils ont appris dans les détours du chemin de la vie pourront peut-être faire une œuvre maîtresse. La réalité et la rêverie sont choses distinctes. Rêver est bon et beau, parce que le rêve est, presque toujours, l'anticipation de ce qui doit être. Mais le sublime est de rendre la vie belle, de faire de la vie, concrètement, une œuvre belle. Moi, j'ai vécu ma vie à grande allure. Je n'ai pas goûté la jeunesse qui, d'après ceux qu'on en lit, est allégresse, douceur, bien-être. Au bagne, je n'ai connu que la douleur. Jeune par le nombre des années, je suis un vieux par tout ce que j'ai vécu, par tout ce que j'ai pleuré, par tout ce que j'ai souffert. Car au bagne, on ne rit presque jamais. Au bagne, qu'on soit sous son toit ou sous le ciel, on pleure toujours. Lire un livre dans une cellule, séparée du contact des hommes, c'est rêver. Lire le livre de la vie, quand on le présente ouvert à une page quelconque, le geôlier, qui t'insulte ou seulement t'espionne, c'est se trouver en contact avec la réalité. J'ai lu certains jours, je ne sais où ni de qui, que l'auteur ne pouvait se faire une idée exacte de la rotondité de la Terre tant qu'il ne l'avait pas parcourue, mesurée, palpée, découverte. Une telle prétention me parut ridicule. Mais cette petite phrase est restée si imprimée en moi que quelquefois, lors de mes soliloques forcés dans la solitude de ma cellule, j'ai pensé à elle. Jusqu'à ce qu'un jour, comme si moi aussi je découvrais quelque chose de merveilleux qui auparavant eût été caché au reste des hommes, je ressentis la satisfaction d'être, par moi-même, le découvreur de la rotondité de la Terre. Et ce jour-là, comme l'auteur de la phrase, je parcourus, mesurai et palpai la planète, la lumière se faisant dans mon imagination à la vision de la Terre tournant dans les espaces infinis, faisant partie de l'harmonie universelle des mondes. La même chose advient à propos de la douleur. Il faut la peser, la mesurer, la palper, la goûter, la comprendre, la découvrir pour avoir dans l'esprit une idée claire de ce qu'elle est. À côté de moi, tirant un chariot sur lequel d'autres, chantant et se réjouissant, s'étaient juchés, j'ai vu des hommes qui, comme moi, faisaient office de mules. Et ils ne souffraient pas. Et ils ne faisaient pas gronder d'en bas leurs protestations. Et ils trouvaient juste et logique que ceux-là, en tant que maîtres, fussent ceux qui les tenaient par des rênes et empoignaient le fouet. Et même logique et juste que le patron, d'un coup de laisse, leur balafre la face. Comme des animaux, ils poussaient un hennissement, frappaient le sol de leurs sabots et partaient au galop. Après, au sarcasme, qu'on les ait dételés, ils léchaient comme des chiens esclaves la main qui les fouettait. Il n'y a personne qui, ayant été humilié, vexé, outragé, qui s'étant senti l'être le plus malheureux de la terre, en même temps que l'être le plus noble, le meilleur, le plus humain, et qui, dans le même temps et tout ensemble, éprouvant son malheur et se sentant heureux et fort, et subissant sur son dos et sur son visage, sans avertissement, sans motif, pour le plus pur plaisir de nuire et d'humilier, le poing glacé de la bête carcellaire. Personne qui, s'étant vu traîner au mitard pour rébellion, et là-dedans, giflé et foulé aux pieds, entendant craquer ses os et voyant couler son sang jusqu'à tomber sur le sol comme une masse. Personne qui, après avoir souffert la torture infligée par d'autres hommes, obligé de sentir son impuissance et de maudire et blasphémer à cause de cela, ce qui était aussi commencer à rassembler ses forces pour une autre fois. Personne qui, à recevoir le châtiment et l'outrage, a pris conscience de l'injustice du châtiment et de l'infamie de l'outrage, et l'ayant, s'est proposé d'en finir avec le privilège qui octroie à quelques-uns la faculté de châtier et d'outrager. Personne, enfin, qui, captif dans la prison ou captif dans le monde, a compris la tragédie des vies des hommes condamnés à obéir en silence et aveuglément aux ordres qu'ils reçoivent, qui ne puissent connaître la profondeur de la douleur, la marque terrible que la douleur laisse pour toujours sur ceux qui ont bu, palpé, respiré la douleur de se taire et d'obéir. Désirer parler et garder le silence, désirer chanter et rester muet, désirer rire et devoir par force étrangler le rire dans sa bouche, désirer aimer et être condamné à nager dans la boue de la haine. Je suis passé par la caserne, et là j'ai appris à haïr. Je suis passé par le bagne, et là, parmi les larmes et les souffrances, étrangement, j'ai appris à aimer intensément. À la caserne, j'en suis presque arrivé à perdre ma personnalité, tant était rigoureux le traitement que je subissais, parce qu'on voulait m'inculquer une discipline stupide. En prison, à travers de nombreuses luttes, je retrouvais ma personnalité, étant chaque fois plus rebelle à tout ce qu'on m'imposait. Autrefois, j'avais appris à haïr, du plus bas au plus haut degré, toute l'hiérarchie. Mais en prison, dans la plus affligeante douleur, j'ai appris à aimer les infortunés, mes frères, tandis que je conservais pure et limpide cette haine des hiérarchies dont m'avait nourri la caserne. Prisons et casernes sont une même chose. Despotisme et libre exercice de la nature mauvaise de quelques-uns, pour la souffrance de tous. Ni la caserne n'enseigne la moindre chose qui ne soit dommageable à la santé physique et mentale, ni la prison ne corrige. Avec ce jugement, avec cette expérience, expérience acquise parce que ma vie a baigné dans la douleur, quand j'entendis que, au pied des montagnes, venait rôder l'ordre de militarisation, je sentis en un instant que mon être s'écroulait, car je vis clairement que mourait en moi l'audacieux guerriero de la Révolution, pour continuer en menant cette existence qui, à la caserne et en prison, se dépouille de tout attribut personnel. Pour tomber encore une fois dans le gouffre de l'obéissance, dans le somnambulisme bestial auquel conduit la discipline de la caserne ou de la prison, qui toutes les deux se valent. Et empoignant avec rage mon fusil, depuis mon abri, regardant l'ennemi et l'ami, regardant en avant et en arrière des lignes, je lançais une malédiction semblable à celle que je lançais quand, rebelle, on me conduisait au cachot, et je refoulais une larme, semblable à celles qui m'échappèrent alors, quand personne ne pouvait les voir, à mesurer mon impuissance. Et je voyais bien que les hypocrites qui souhaitent faire du monde une caserne ou une prison sont les mêmes. Les mêmes qui, hier, dans les cachots, firent craquer nos os, à nous, des hommes. Des hommes. Caserne, bagne, vie indigne et misérable. On ne nous a pas compris, et parce qu'on ne pouvait pas nous comprendre, on ne nous a pas aimés. Nous avons combattu. Maintenant, les fausses modesties ne sont pas de mise, qui ne conduisent à rien. Nous avons combattu, je le répète, comme peu l'ont fait. Notre place a toujours été sur la première ligne de feu, pour la bonne raison que dans notre secteur, depuis le premier jour, nous avons été les seuls. Pour nous, il n'y eut jamais de relève, ni, ce qui a été pire encore, un mot gentil. Les uns comme les autres, les fascistes et les antifascistes, et jusqu'aux nôtres, quelle honte en avons-nous ressenti, tous nous ont traités avec antipathie. On ne nous a pas compris. Ou, ce qui est le plus tragique à l'intérieur de cette tragédie que nous vivons, peut-être ne nous sommes-nous pas fait comprendre. Puisque nous, pour avoir porté sur nos épaules le poids de tous les mépris et de toutes les duretés de ceux qui furent dans la vie du côté de la hiérarchie, nous avons voulu vivre, même dans la guerre, une vie libertaire, tandis que les autres, pour leur malheur et pour le nôtre, ont suivi le char de l'État en s'y attelant. Cette incompréhension qui nous a causé des peines immenses a bordé notre chemin de malheur. Et non seulement les fascistes, que nous traitons comme ils le méritent, ont pu voir en nous un péril, mais aussi bien ceux qui se nomment antifascistes et crient leur antifascisme jusqu'à s'enrouer. Cette haine qui fut construite autour de nous donna lieu à des affrontements douloureux. Le pire de tous en ignominie, qui fait monter le dégoût à la bouche et porter la main au fusil, eut lieu en pleine ville de Valence, lorsque ouvrirent le feu sur nous d'authentiques rouges antifascistes. Alors il nous faut conclure sur ce que maintenant la contre-révolution est en train de faire. L'histoire qui recueille tout le bien et tout le mal que les hommes accomplissent parlera un jour. Et alors l'histoire dira que la colonne de fer fut peut-être la seule en Espagne qui eut une vision claire de ce que devait être notre révolution. L'histoire dira aussi que ce fut cette colonne qui opposa la plus grande résistance à la militarisation. Elle dira en outre que, parce qu'elle y résistait, il y eut des moments où elle fut totalement abandonnée à son sort, en plein front de bataille, comme si une unité de 6000 hommes, aguerris et résolus à vaincre ou mourir, devait être abandonnée à l'ennemi pour qu'il l'anéantisse. Combien de choses dira l'histoire, et combien de figures qui se croient glorieuses seront exécrées et maudites. Notre résistance à la militarisation se trouvait fondée sur ce que nous connaissions des militaires. Notre résistance actuelle se fonde sur ce que nous connaissons actuellement des militaires. Le militaire professionnel a constitué, maintenant comme toujours, ici comme en Russie, une caste. C'est elle qui commande. Aux autres, il ne doit rester rien de plus que l'obligation d'obéir. Le militaire professionnel est de toutes ses forces, et d'autant plus s'il s'agit d'un compatriote, celui qu'il croit son inférieur. J'ai moi-même vu. Je regarde toujours les yeux des hommes. Un officier tremblait de rage ou de dégoût quand, m'adressant à lui, je l'ai tutoyé. Et je connais des exemples d'aujourd'hui même, de bataillons qui s'appellent prolétariens, dans lesquels le corps des officiers, qui a déjà oublié ses humbles origines, ne peut permettre, contre ceux-ci il y a de sévères punitions, qu'un milicien les tutoie. L'armée prolétarienne ne demande pas une discipline qui pourrait être, somme toute, l'exécution des ordres de guerre. Elle demande la soumission, l'obéissance aveugle, l'anéantissement de la personnalité de l'homme. La même chose que lorsqu'hier j'étais à la caserne. La même chose que lorsque plus tard j'étais au bagne. Nous, dans les tranchées, nous vivions heureux. Certes, nous voyons tomber à côté de nous les camarades qui commencèrent avec nous cette guerre. Nous savons de plus qu'à tout instant, une balle peut nous laisser étendus en plein champ. C'est la récompense qu'attend le révolutionnaire. Mais nous vivions heureux. Nous mangions quand il y avait de quoi. Quand les vivres manquaient, nous jeûnions. Et tous contents. Pourquoi? Parce que personne n'était supérieur à personne. Tous amis, tous camarades, tous guérilleros de la révolution. Le délégué de groupe ou de centurie ne nous était pas imposé, mais il était élu par nous-mêmes, et il ne se sentait pas lieutenant ou capitaine, mais camarade. Les délégués des comités de la colonne ne furent jamais colonels ou généraux, mais camarades. Nous mangions ensemble, combattions ensemble, rions ou maudissions ensemble. Nous n'avons eu aucune solde pendant longtemps, et eux non plus n'eurent rien. Et puis nous avons touché 10 pesetas. Ils ont touché, et ils touchent 10 pesetas. La seule chose que nous considérons, c'est leur capacité éprouvée, et c'est pour cela que nous les choisissons. Pour autant que leur valeur était confirmée, ils furent nos délégués. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'ordre sévère. Il y a la sympathie, l'affection, la camaraderie. Vie heureuse au milieu des désastres de la guerre. Et ainsi, entre camarades, se disant que l'on combat à cause de quelque chose et pour quelque chose, la guerre plaît, et l'on va jusqu'à accepter avec plaisir la mort. Mais quand tu te retrouves chez les militaires, là où tout n'est qu'ordres et hiérarchie, quand tu vois dans ta main la triste solde avec laquelle tu peux à peine soutenir la famille que tu as laissée derrière toi, et quand tu vois que le lieutenant, le capitaine, le commandant, le colonel empochent 3, 4, 10 fois plus que toi, bien qu'il n'ait ni plus d'enthousiasme, ni plus de connaissances, ni plus de bravoure que toi, la vie te devient amère, parce que tu vois bien que cela, ce n'est pas la révolution, mais la façon dont un petit nombre tire profit d'une situation malheureuse, ce qui ne tourne qu'au détriment du peuple. Je ne sais pas comment nous vivrons désormais. Je ne sais pas si nous pourrons nous habituer à entendre les paroles blessantes d'un caporal, d'un sergent ou d'un lieutenant. Je ne sais pas si, après nous être sentis pleinement des hommes, nous pourrons accepter d'être des animaux domestiques, car c'est à cela que conduit la discipline, et c'est cela que représente la militarisation. Il est sûr que nous ne le pourrons pas. Il nous sera totalement impossible d'accepter le despotisme et les mauvais traitements, parce qu'il faudrait n'être guère un homme pour, ayant une arme dans la main, endurer paisiblement l'insulte. Pourtant nous avons des exemples inquiétants à propos de camarades qui, en étant militarisés, en sont arrivés à subir, comme une dalle de plomb, le poids des ordres qui émanent de gens les plus souvent ineptes et toujours hostiles. Nous croyions que nous étions en marche pour nous affranchir, pour nous sauver, et nous allons tombant dans cela même que nous combattons, dans le despotisme, dans le pouvoir des castes, dans l'autoritarisme le plus brutal et le plus aliénant. Cependant, le moment est grave. Ayant été pris, nous ne savons pas pourquoi, et si nous le savons, nous le taisons en ce moment. Ayant été pris, je le répète, dans un piège, nous devons sortir de ce piège, nous en échapper, le mieux que nous pouvons, car enfin, de piège, tout le champ s'est trouvé truffé. Les militaristes, tous les militaristes, il y en a de furieux dans notre camp, nous ont cernés. Hier, nous étions maîtres de tout, aujourd'hui, c'est eux qui le sont. L'armée populaire, qui de populaire n'a rien d'autre que le fait d'être recrutée dans le peuple, et c'est ce qui se passe toujours, n'appartient pas au peuple. Elle appartient au gouvernement. Et le gouvernement dirige. Et le gouvernement ordonne. Au peuple, il est simplement permis d'obéir. Et l'on exige qu'il obéisse toujours. Étant pris entre les mailles militaristes, nous n'avons plus de choix qu'entre deux chemins. Le premier nous conduit à nous séparer. Nous qui, jusqu'à ce jour, sommes camarades dans la lutte, en proclamant la dissolution de la colonne de fer. Le second nous conduit à la militarisation. La colonne, notre colonne, ne doit pas se dissoudre. L'homogénéité qu'elle a toujours présentée a été admirable. Je parle seulement pour nous, camarades. La camaraderie entre nous restera dans l'histoire de la Révolution espagnole comme un exemple. La bravoure qui a paru dans 100 combats aura pu être égalée dans cette lutte de héros, mais non surpassée. Depuis le premier jour, nous avons été des amis. Plus que des amis, des camarades. Les frères, nous séparer, nous en aller, ne plus nous revoir, ne plus ressentir comme jusqu'ici nos désirs de vaincre et de combattre, c'est impossible. La colonne, cette colonne de fer, qui depuis Valence jusqu'à Teruel a fait trembler les bourgeois et les fascistes, ne doit pas se dissoudre, mais continuer jusqu'à la fin. Qui peut dire que d'autres, pour s'être militarisés, ont été dans les combats plus forts, plus hardis, plus généreux, pour arroser de leur sang les champs de bataille. Comme des frères qui défendent une noble cause, nous avons combattu. Comme des frères qui ont les mêmes idéaux, nous avons rêvé dans les tranchées. Comme des frères qui aspirent à un monde meilleur, nous sommes allés de l'avant avec notre courage. Dissoudre notre totalité homogène? Jamais, camarades. Tant que nous restons une centurie, au combat. Tant qu'il reste un seul de nous, à la victoire. Ce sera un moindre mal, quoique le mal soit grand d'avoir à accepter que quiconque, sans avoir été élu par nous, nous donne des ordres. Pourtant, être une colonne ou être un bataillon est presque indifférent. Ce qui ne nous est pas indifférent, c'est qu'on ne nous respecte pas. Si nous restons, réunis, les mêmes individus que nous sommes en ce moment, que nous formions une colonne ou un bataillon, pour nous ce devrait être égal. Dans la lutte, nous n'aurons pas besoin de gens qui nous encouragent au repos. Nous n'aurons pas de gens qui nous interdisent de nous reposer, parce que nous n'y consentirons pas. Le caporal, le sergent, le lieutenant, le capitaine, ou bien sont des nôtres, auquel cas nous serons tous camarades, ou bien sont nos ennemis, auquel cas il n'y aura qu'à les traiter en ennemis. Colonne ou bataillon, pour nous, si nous le voulons, ce sera la même chose. Nous, hier, aujourd'hui et demain, nous serons toujours les guerriers roses de la Révolution. Ce qu'il nous adviendra dans la suite dépend de nous-mêmes, de la cohésion qui existe entre nous. Personne ne nous imprimera son rythme, c'est nous qui l'imprimerons, afin de garder une attitude adaptée à ceux qui se trouveront à nos côtés. Tenons compte d'une chose, camarades. Le combat exige que nous ne retirions pas de cette guerre nos bras ni notre enthousiasme. En une colonne, la nôtre, ou en un bataillon, le nôtre, en une division ou en un bataillon qui ne serait pas les nôtres, il nous faut combattre. Si la colonne est dissoute, si nous nous dispersons, ensuite, étant obligatoirement mobilisés, nous n'aurons plus qu'à aller là où on nous l'ordonnera, et non avec ceux que nous avons choisis. Et comme nous ne sommes ni ne voulons être des bestioles domestiquées, il est bien possible que nous nous heurtions avec des gens que nous ne devrions pas heurter, avec ceux qui, que ce soit un mal ou un bien, sont nos alliés. La révolution, notre révolution, cette révolution prolétarienne et anarchiste, à laquelle depuis les premiers jours nous avons offert des pages de gloire, nous requiert de ne pas abandonner les armes, et de ne pas non plus abandonner le noyau compact que jusqu'à présent nous avons constitué, quel que soit le nom dont on l'appelle, colonne, division ou bataillon. Un incontrôlé de la colonne de fer.
Note de couverture rédigée par Guy Debord. Cet appel d'un milicien anarchiste inconnu, appartenant à la fameuse colonne de fer, paraît bien être jusqu'à ce jour l'écrit le plus véridique et le plus beau que nous ait laissé la révolution prolétarienne d'Espagne. Le contenu de cette révolution, ses intentions et sa pratique y sont résumés froidement et passionnément. Les principales causes de son échec y sont dénoncées. Celles qui procédèrent de la constante action contre-révolutionnaire des staliniens relayant, dans la République, les forces bourgeoises désarmées, et des constantes concessions des responsables de la CNTFI, ici amèrement évoquées par le terme « les nôtres », de juillet 1936 à mars 1937. Celui qui revendique hautement le titre, alors injurieux, d'incontrolado, a fait preuve du plus grand sens historique et stratégique. On a fait la révolution à moitié, en oubliant que le temps n'attend pas. Hier, nous étions maîtres de tout. Aujourd'hui, c'est eux qui le sont. À cette heure, il ne reste plus aux libertaires de la colonne de fer qu'à continuer jusqu'à la fin, ensemble. Après avoir vécu un si grand moment, il n'est pas possible de nous séparer, nous en aller, ne plus nous revoir. Mais tout le reste a été renié et dilapidé. Ce texte, mentionné dans l'ouvrage de Bernard Bolloten, a été publié par Nosotros, quotidien anarchiste de Valence, des 12, 13, 15, 16 et 17 mars 1937. La colonne de fer fut intégrée à partir du 21 mars dans l'armée populaire de la République sous l'appellation de 83e brigade. Le 3 mai, le soulèvement armé des ouvriers de Barcelone fut désavoué par les mêmes responsables qui réussirent à y mettre un terme le 7 mai. Il ne resta plus en présence que deux pouvoirs étatiques de la contre-révolution, dont le plus fort gagna la guerre civile.